Chapitre 12. À la conciergerie. Madame Orlac, qui savait le prix du temps et ne faisait pas fi des agréments du luxe, n'avait pas attendu là habiter un hôtel particulier pour reprendre une automobile et se réabonner au téléphone. J'étais à dîner lorsque la sonnerie de mon appareil retentit. « Allô, Monsieur Breteuil ? Ici Madame Orlac. À vos ordres, chère madame. Ne prononcez pas mon nom si vous n'êtes pas seule. Fort bien, non, je suis seul. Qu'y a-t-il pour votre service ? Il faut que je vous voie au plus tôt, secrètement. Peut-être suis-je guetté dans la rue. C'est peu probable, mais possible. Comment faire ? Cette nuit ? Oh non, si vous êtes épié, votre sortie nocturne vous trahirait à coup sûr. Et puis, la nuit, par les rues désertes, les filatures sont beaucoup plus faciles. Venez au contraire en plein jour, demain matin, au moment où les employés se rendent à leur travail, où les femmes vont au marché. Profitez de l'agitation. Bien, pourrais-je vous voir ailleurs que chez vous ? Pour votre gouverne, j'ai des courses à faire. Regina s'est sauvée, ma sortie sera donc justifiée. Parfait, alors, voulez-vous à 8h30 ? Où diable puis-je vous attendre ? Je cherche un endroit qui ne puisse faire naître aucun soupçon. Ah, votre couturier, qui ? Alexis, rue de la Paix ? Eh bien, vous me trouverez chez lui. Convenons d'une feinte, je serai votre homme d'affaires à qui vous aurez donné des ordres à donner. À votre avis, dois-je prendre l'auto ? Oh, pas d'importance, mais encore un mot. Votre mari est-il surveillé, lui aussi ? Oh, si je le suis, il l'est. Et votre démarche auprès de moi est connue de lui ? Bien sûr. Alors, qu'il sorte avant vous demain matin et qu'il fasse une bonne promenade à pied. Ça ne lui fera pas de mal et s'il est surveillé, ça occupera toujours l'un de vos surveillants. J'entendis un rire perlé un peu contraint et la conversation se termina sur un échange de bonsoir. Vu la morte saison et l'heure presque anormale pour un grand couturier, je ne trouvais dans les salons d'Alexis que deux ou trois vendeuses à peine débarrassées de leurs chapeaux. Je ne jurais pas qu'elles furent dupes de notre comédie, ni que la seconde, faisant fonction de première, ne crut refermer la porte du vouloir sur un couple d'amoureux. Oh, il m'importait. L'essentiel pour la maison Alexis était que la cliente eût commandé deux robes d'un deuil irrésistible. L'essentiel pour nous était d'être ce que nous étions et de pouvoir causer librement. Lorsque Madame d'Orlac m'eut exposé par le menu toute l'histoire de Stephen, mystère éclairci et mystère à éclaircir, et lorsqu'elle m'eut donné son opinion motivée sur le parti qu'il convenait de prendre, je ne pus qu'abonder dans son sens, et nous décidâmes d'un commun accord que le persécuteur de son mari serait arrêté le lendemain matin rue Saint-André-des-Arts, pourvu qu'il se montrât ponctuel. Réservant à plus tard les joies de l'émerveillement, je dressai le programme de l'action. « Il est indispensable, dis-je à Madame d'Orlac, que votre mari fasse sa déposition aujourd'hui même. Je vais donc provoquer au palais de justice la réunion de quelques personnes dont le ministère doit être requis ou dont l'assistance me paraît indiquée. Votre mari parlera devant elle et il sera procédé à la signature du mandat d'arrêt. Je connais assez les mœurs du palais et je prends sur moi de fixer l'heure et le lieu de la comparution. Venez tous deux à 3h de l'après-midi. Mais il faut parer à l'espionnage dont vous êtes peut-être l'objet. Il faut dépister les suiveurs possibles et les affidés qui pourraient te monter la garde autour du cabinet de M. Bourquerin. D'un autre côté, si votre mari est surveillé, il est nécessaire que ces Argus le voient se rendre chez son banquier afin de leur donner à croire qu'il est allé chercher le million. Quelle est votre banque ? Le Crédit Lyonnais. Siège central ? Oui. Oh, mais c'est plus que parfait. Prêtez-moi votre attention. À 2h30, vous vous ferez mener tous deux au Crédit Lyonnais dans votre auto. Stéphane sera muni d'une serviette. Vous descendrez devant la façade, boulevard des Italiens. L'auto vous y attendra. Vous ferez détour sur détour dans les hauteurs du labyrinthe de la finance et vous en sortirez par la porte de la rue de Choiseul, où vous trouverez un taxi mobilisé par mes soins. Ce taxi vous conduira quai de l'Horloge, à la porte de la conciergerie. J'y serai moi-même et je vous guiderai jusqu'à certaines salles de ma connaissance où nous serons tout à fait à l'abri des fâcheux. À la prison, mais vous allez bouleverser mon pauvre Stéphane. Que voulez-vous, je ne peux pourtant pas convoquer M. Bourquin et M. Lambert-Gonda chez Maxime ou au Majestic. La conciergerie communique avec le palais. Ces messieurs arriveront par là, c'est commode et prudent. Je poursuis. La déposition terminée, vous regagnerez le Crédit Lyonnais par les mêmes moyens. Le taxi vous dépose rue de Choiseul, vous retraversez le labyrinthe de la finance et vous rentrez chez vous dans votre automobile, porteur d'un million imaginaire. Alors il faudra bourrer la serviette avec des vieux papiers. Inutile, un million, billet de mille ne tient pas plus de place que les trois mousquetaires. Et combien de temps durera la déposition? Le temps qu'il faudrait pour obtenir le paiement du million au Crédit Lyonnais. Tout va bien, vous y êtes? Alors, quittez-moi. Je ne sortirai d'ici qu'après vous et je n'ai pas une minute à perdre. Madame Orlac me tendit sa main que je baisais. Nous allâmes ensemble jusqu'au palier d'Alexis, reconduit par l'aimable seconde. Là, je laissai Madame Orlac prendre les devants et, simulant l'homme d'affaires qui note des ordres sur ses tablettes, je comptais jusqu'à 1000 à la cadence du pas de troupe avant de franchir le seuil de l'immeuble. Les bureaux de mon journal sont situés dans le quartier. Je m'y rendis sur l'heure et m'emparai du téléphone. La salle que je m'étais permis de choisir pour y faire entendre la déposition de Stéphane Orlac se trouve au cœur même de la vieille geôle parisienne. On n'y voyait pour tout mobilier qu'une table et quelques chaises. Lorsque j'introduisis M. et Mme Orlac, quatre personnes s'y trouvaient déjà. Des gardes et un employé du service anthropométrique se tenaient dans le couloir. Je fis à part moi l'appel des présents. Le substitut Lambert Gonda, un greffier, M. Cointre, le vieux docteur Fouardet, médecin légiste. Deux absents. L'un ne viendrait pas, on m'avait prévenu. L'autre était réputé pour son inexactitude, et lorsque nous entrâmes, M. Lambert Gonda était à dire plaisamment que s'il est vrai que l'incertitude est la politesse des rois, M. Bourquerin aurait su coiffer couronne sans devenir un malotru. D'où il concluait, non sans liesse, que M. Bourquerin se trouvait impropre par nature à se pelotonner dans un trône et à faire des moulinets avec un sceptre. Stéphane, avait-il besoin de le dire, montrait la pâleur et l'agitation de l'insécurité. Pourtant, jusque-là, tout s'était déroulé selon mes prévisions. Sous une pluie de tempête, un taxi attendait M. et Mme Orlac à la porte de la conciergerie et leur limousine les attendait non moins devant le Crédit Lyonnais. Nous n'avions donc qu'à patienter en unissant nos prières pour que M. Bourquerin ne témoignât point à l'excès de son inaptitude à régir les peuples. Les fonctionnaires que j'avais convoqués, avec bien entendu l'assentiment de M. Bourquerin, ignorait l'importance de cette alerte. Une déposition intéressante, il n'en savait pas davantage. Et chacun occupait son désœuvrement comme il pouvait. La fenêtre grillée donnant sur une cour intérieure éclairait d'un jour triste ce lieu judiciaire. Elle ruisselait, fouettée de rafales. Monsieur Cointre me parut à l'unisson de l'ambiance. Son air rogue et chagrin, son mutisme, s'accommodaient du climat et de l'atmosphère. Il fut presque incivil envers nous qui arrivions, se levant à peine et nous regardant sans aménité. Je dois dire à sa décharge que les circonstances n'impliquaient nulle courbette mondaine. Et M. Lambert Gourdin nous le fit bien sentir en reprenant avec le docteur Fouardet, et ce, à mi-voix, une conversation interrompue. Le greffier contemplait ses ongles. Cointre observait Stephen de cet œil qu'ont les chiens qui grognent. Était-il repris de ses premiers soupçons? On entendait sur les poussées de la bourrasque que les chuchotements alternés du substitut et du médecin légiste. Malgré le soin qu'il prenait de ne prononcer aucun nom, je compris qu'il s'entretenait de l'affaire de la rue d'Assas. Le docteur Fouardet avait pratiqué l'autopsie des cadavres. « Non, disait-il, pas la bonne indication, ni externe ni interne. J'ai cru un instant avoir découvert un cheveu dans un ongle du premier mort, un cheveu noir, mais c'était un poil de la peau d'ours. » Et dans les yeux, hasarda le substitut, moitié figue et moitié raisin. Dans les yeux, non, je n'ai rien trouvé non plus, répondit fermement le docteur. Oh non, je ne m'en cache pas, j'ai regardé dans les yeux. Jusqu'à présent, mes nombreuses observations me font croire que jamais un assassiné ne conservera, photographié sur sa rétine, l'image de sa dernière vision, et qu'on pourra de la sorte trouver en lui-même le portrait de son assassin. Il m'est avis que c'est une légende, mais j'estime scrupuleux de m'en assurer en toute occasion, dussé-je passer pour une baderne. Car cette légende se fonde sur la théorie des scotomes, et cela c'est de la science. Scotomes, questionna M. Lambert Gronda. Oui, scotomes, des taches ténébreuses, silhouette laissée sur la rétine par la contemplation d'un objet trop lumineux ou trop illuminé. Vous vous rappelez le vers de Rostand? Lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Seulement, la rime a trompé le poète. Le rond n'est pas vermeil. Il est sombre, phénomène particulièrement sensible lorsqu'on l'observe sur un fond blanc. Tout au plus, les scotomes sont-ils cernés d'un halo ignescent qui les déborde à peine. Ce sont des clichés négatifs. Et à quoi sont-ils dus? Non, mais vous savez que la vision n'est autre chose qu'une suite de photographies. L'œil est la chambre noire, la rétine, la plaque sensible, et le pourpre rétinien, la couche de sel que la lumière décompose. En temps normal, le pourpre se recompose assez instantanément pour que chaque photographie s'efface aussitôt que prise. Mais si vous commettez l'imprudence de regarder longuement un point splendide ou si quelque objet éblouissant frappe votre regard, c'en est fait. Le pourpre, trop vivement impressionné, ne se régénère qu'avec lenteur et parfois l'image indélébile l'affectera sans espoir de guérison. Oh, c'est curieux, cela. La mort, en arrêtant toutes les fonctions, supprime tout travail reconstitutif. Supposez qu'un homme succombe avant que son pourpre rétinien se soit débarrassé d'un scotum. Si ce scotum reproduit les contours de son meurtrier, que nous imaginerons avoir été resplendissant, ne voilà-t-il pas un fait qui corrobore notre légende? Mais, en effet, oui, mais de là à ce qu'un scotum soit visible de l'extérieur, sous la loupe d'un médecin légiste, il y a loin. Et si celui qui vous parle étudie la question, s'il expérimente certains procédés, croyez bien que c'est sous le boisseau. Plus d'un confrère me ridiculiserait. Retenez seulement ce que je vous ai dit des scotums. Et sachez que dans les yeux du deuxième cadavre, il n'y avait hélas aucune esquisse de main armée de couteau. Pourtant, cette apparition phosphorescente en pleine ténèbre, dont les médiums ont parlé, ce corps lumineux placé devant les yeux de la victime au moment de sa mort, hein, pourtant, quelle occasion! Le docteur ne pensait plus à ceux qui l'écoutaient. Il vit alors, avec une grande surprise, Madame Orlac s'approcher de lui. « Docteur, fit-elle, permettez-moi de vous poser une question. Croyez-vous que le saisissement puisse avoir une action quelconque sur la persistance d'un scotum? Selon vous, un scotum produit par la brusque vision d'un objet éblouissant est-il susceptible d'éclipse et de retour? Peut-il, ayant disparu, reparaître à de certains moments sous l'effet d'une émotion violente? Bon, je ne le crois pas, non, madame, répondit le docteur Fouarnet sur le ton le plus courtois. Un scotum intermittent, cela me paraît bizarre au premier abord, mais je me base ici sur l'habitude des faits, des organes et des tempéraments, et il faut toujours laisser une place à l'exception. Je ne saurais, par exemple, traiter comme des yeux banaux les yeux exceptionnels qui me font la grâce de se poser sur moi présentement. Excusez le vieux praticien qui devine si aisément votre pensée. Mais le vieux praticien est aussi un vieil admirateur de la beauté. Et il vous dit, « Madame, ne cherchez pas à pénétrer la raison organique de votre séduction. Le charme définissible de vos grands yeux, n'allez pas demander à la science de vous le transformer en anomalie pathologique. Ne creusez pas les hyperestéries, laissez en paix les troubles fonctionnels. Les médecins n'ont point de galanterie. Pour eux, toute exception, même adorable, est une monstruosité. Quand on a des yeux comme les vôtres, on les garde. Les expliquer serait les désarmer. Si la justice n'y est pas intéressée, qui donc nous pardonnerait ce sacrilège ? Rosine, délicieuse dans sa confusion, me regarda et regarda Stéphane d'un air intendu. Elle savait bien, la jolie, que ses yeux distillaient une grâce insolite, et elle était la première à tenir ce don-là pour infiniment précieux. Je me promis de ne jamais lui reparler de Spectrophélès. Pourtant, je me réjouissais de la sentir rassurée au sujet de ce spectre qui n'avait pas surgi devant elle, mais en elle. Cette ombre qui n'était pas la cause de ses émotions, mais leur effet instantané, ce fantôme en un mot qui n'était qu'un scotum. Rosine s'était jetée vers la lumière, elle étourdie. La sagacité du vieil homme l'avait mise dans l'embarras. Mais l'arrivée de M. Bourquerin se produisit point à point pour l'en tirer. Honteux d'être en retard, il dissimulait son ennui sous une désinvolture sautillante qui tortillait sa corpulence d'invertébré. Gigantesque et poupin, il progressait à petits pas, contournant la croupe au rebours du torse, la tête inclinée sur une épaule, sa main grasse et blanche levée jusqu'à sa joue dans une pose pleine d'onction et d'affaîtrie. Quand il fut logé derrière la table, il invita Stéphane à disposer. Celui-ci s'exécuta, et comme s'il eût fait des confidences à sa cravate, révéla toute l'histoire de ses mains. Je laisse à penser l'étonnement des auditeurs. Mais M. Bourquin, d'Odelina du chef, comme un magot de la Chine. « Ça, Monsieur Orlac, dit-il en me regardant pour me faire comprendre que c'était à moi qu'il s'adressait en vérité. « Ça, Monsieur Orlac, j'ai quelques lettres autant que je sache. Vous avez lu Gérard de Nerval et Edmond Abou. La main enchantée et le nez d'un notaire vous ont procuré ce rêve-là. Et vous vous souvenez de Charles Nodier, lequel prétendait qu'on l'avait guillotiné sous la terreur. C'est amusant, votre conte, mais diabolo, ce n'est pas plus sérieux que le chaboté ou l'oiseau bleu. Abracadabra, et voilà tout. » Il faisait des gestes excédés, et son regard, chargé de reproches, me mitraillait. Pardon, fis-je en me levant. Mais malgré l'absence du professeur Keral, qui se trouve pour quelques jours en Amérique et que j'aurais bien voulu vous faire entendre, nous pouvons procéder à l'identification des mains de M. Stephen Orlac et acquérir la certitude que ses mains sont celles de Vasseur. Monsieur Couâtre, vous qui avez connu Vasseur, voulez-vous approcher ? Couâtre, extrêmement ému, obtempéra et Stephen lui tendit ses mains. Il me semble bien reconnaître. Oh, mais je ne jurerai pas, dit l'inspecteur après un moment. L'affaire Vasseur date de plusieurs mois. Les mains de l'inculpé n'avaient pas attiré mon attention. Je ne me suis appesanti que sur la corrélation des empreintes. Enfin, M. Orlac a fait subir à ses mains tant de traitements, si j'ose dire. Soit, repartis-je, mais M. Bertillon, tout décédé qu'il est, va nous éclairer. Là-dessus, je demandai la permission d'introduire l'employé du service anthropométrique. Il portait un petit paquet qu'il se mit à défaire. La fiche signalétique de Vasseur, lui dis-je, et prenez s'il vous plaît les empreintes de monsieur. Il posa la fiche devant les magistrats. Stephen, sollicité, ôta son pardessus, sa veste, retroussa les manches de sa chemise, puis ayant appuyé le bout de ses doigts sur un tampon saturé d'encre noire, il imprima leurs traces au beau milieu d'une feuille blanche. « Maintenant la mesure des doigts !» réclamai-je. L'employé fit étendre les mains à plat et pratiqua la mensuration à l'aide d'un homme de toise approprié. Les empreintes et les chiffres furent comparés. M. Bourquerin marqua de la stupeur. Cependant, le docteur Fouardet, cédant à ma prière, examinait les mains, les bras de Stephen et surtout le réseau de cicatrices saignant les avant-bras à quelques centimètres du poignet. « Eh bien ?» lui demandai-je. « Bon, je ne peux pas dire le contraire, » déclara le savant. « Vous me voyez confondu. Je crois vivre en l'an 2000, à moins d'une supercherie. Mais s'il s'agit de Serral, le mot « supercherie », pas plus que le mot « impossible », doit être prononcé. « Reste donc à savoir, » dit froidement le substitut, « si le professeur Serral est bien l'auteur de ces cicatrices. » Madame Orlac, dit M. Bourquin en déroulant un invisible serpentin, n'avez-vous jamais entretenu le professeur Serral au sujet des mains de votre mari? Je me rappelle fort bien nos conversations, répondit Rosine, mais ce ne sont pas là les mains de mon mari qui me donnaient de l'inquiétude. Je n'interrogeais le professeur Serral que sur l'opération à la tête, en sorte qu'il ne s'est jamais trouvé dans l'obligation de mentir pour respecter le secret professionnel. En résumé, conclut M. Lambert Gondat, nous avons les preuves que M. Stephen Orlac a les mains de Vasseur, ou des mains qui ressemblent curieusement à celles de Vasseur, et que leurs empreintes se retrouvent sur le couteau du crime. Voilà, et puis, maintenant il nous faut démontrer, primo, que Vasseur est vivant, secondo, que c'est lui le coupable. Nous vîmes Stephen envoyé comme un linge au vent. Il avait parlé. Le sort en était jeté. À moins que Serral ne puisse fournir quelques renseignements imprévus, sa vie dépendait de l'arrestation du criminel. Lisez ceci, dis-je au magistrat. C'était un extrait du procès-verbal d'exécution relatant que le corps de Vasseur avait été remis au professeur Serral aux fins d'autopsie, de dissection et expérience. « À peine un commencement de preuve, » remarqua M. Bourquerin. « Qu'en concluez-vous ? La grève des mains, peut-être, car il faut bien que le professeur Serral ait eu pour réclamer le cadavre un motif de ce genre. Aussi bien nous le dira-t-il lui-même dans quelques jours. » Mais la recollation du supplicié sort net. Or, sur ce point, le professeur ne pourra témoigner, puisque selon vous-même, il n'aurait pris aucune part à cette chose enfin à dormir debout. Je vous parie 2 sous que ma sœur est toujours morte et que votre filet se refermera sur le vide. Il ajouta sans ménagement. « Ah non, monsieur Breteuil, il y a des limites, diabolon. À qui ferez-vous un valet des bourdes pareil ? Ma parole, mais vous nous prenez pour des je ne sais quoi. » Je le regardais d'une manière appuyée, en pesant sur lui de toutes mes forces visuelles. Me lancez tout de même un mandat d'arrêt. Contre qui ? Contre ma sœur ? Mais vous êtes fou. Lancez un mandat d'arrêt contre un décapité. Autant donner tout de suite ma démission. Eh bien, monsieur le juge, intervint Cointre avec une décision quasi théâtrale. Laissez le nom en blanc, si le nom vous chiffonne. Mais signez et donnez-moi carte blanche. L'attitude de l'inspecteur médusa tous les témoins de cette scène dramatique. Ses yeux littéralement lançaient des éclairs. Il rayonnait d'un enthousiasme soudain. Et s'adressant à Stéphane, il lui dit avec feu. « Répétez-moi, citoyen de Vasseur, sans vous occuper de l'affiche. Vous dites que l'homme a laissé pousser sa barbe, et parbleu, il a dû vieillir pendant son mariage avec la veuve. » Et puis les fiches, ce n'est jamais complet. Voyons, teint brun, prunelle noire, grand nez mince avec un grain de beauté sur la narine droite, accent plutôt méridional, renifle à chaque instant, roule les airs, a des dents très courtes et très blanches. Oui, tout à fait cela. Cointre éclatait de bonheur. Mais la main, monsieur Orlac, il faut que je vous serre la main. « Ah !» s'écria Stéphane, renaissant à la vie. « Mais bien volontiers, mais hélas, ce ne sont pas mes mains à moi que vous pressez. »« Ça ne fait rien, allez, je vous les presse de bon cœur, oui, monsieur. »« Vous êtes, passez-moi l'expression, un brave et honnête garçon. »« Oui, d'un bon cœur et avec plaisir. »« Parce que, voyez-vous, dans l'existence, on se trompe et on se gourre, quelquefois. » Alors, n'est-ce pas, quand on peut réparer, venger, innocenter, vous comprenez bien ça, pour dire le vrai mot, ça fait du bien. Tenez, le voilà, votre mandat, dit M. Bourquerin, qui balançait comme un encensoir une feuille de papier. Merci, monsieur, et vous, monsieur Orlac, donnez-moi toutes les indications voulues pour que nous ne rations pas notre malandrin. Je le connais, il viendra sûrement au rendez-vous. Trop confiant, ce type-là, se croit du génie. Attends un peu, je vais t'en flanquer, moi, du génie. Quel bonheur, me dit Rosine, en voilà un qui voit clair. Oui, répliquai-je, mais je ne l'aurais pas cru si impressionnable ni si expansif. Messieurs, vous êtes libres, annonça M. Bourguerin. Ah, susurra Stéphane. Caruso ne chante pas si agréablement. Et il sortit avec quelque précipitation.